L'intimité conjugale, c'est un sujet à ne pas mépriser. Vous connaissez ce passage-là de que je vais trouver moi-même, de 1 Pierre 3, verset 7, où il est écrit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports ». Et là, on est vraiment dans les rapports spécifiques de homme à femme, dans des rapports domestiques de personnes qui vivent ensemble, partagent la même maison, la même chambre. C'est la seule fois dans la Bible où le mot, concrètement, tel qu'il est évoqué. Montrez de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme avec un vase plus faible. Honorez-la, donnez-lui sa part, partagez les biens communs avec elle et pas que les biens communs, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est quand même intéressant de voir que l'équilibre dans le couple, y compris dans l'intimité, ou le déséquilibre, ou la frustration de l'un et des choses qu'on doit à l'autre qui sont retenues, n'attirent pas la bénédiction de Dieu sur le couple et peuvent causer, représenter un obstacle pour nos prières et donc une partie de notre vie spirituelle. C'est donc, on n'est pas en train de traiter seulement de quelque chose qui est physique, presque mondain et tout ça, c'est quelque chose qui a un lien quelque part même avec notre vie spirituelle. Lorsqu'il est question de l'homme qui quitte son père, sa mère, s'attache à sa femme et qu'il est question d'une seule chair, eh bien il est effectivement fait question d'une unité, une unification, une complémentarité, une redéfinition de l'identité commune, parce qu'il n'est pas question qu'il y en ait un qui soit absorbé par l'autre ou réciproquement, pas question non plus d'entrer dans un modèle père-fille, fille-père, mais les deux fondent pour reformer ensemble littéralement une autre identité, une nouvelle personne, une autre nouvelle personne. Ce ne sera ni l'un ni l'autre, ce sera une nouvelle entité différente de chacun des deux. Et ce sera né d'une bonne fusion, d'une bonne unification du couple. Et il y a la notion derrière de une seule chair, avec la référence à l'intimité conjugale. Ce sujet n'appartient pas à notre génération, disons, aux incroyants. Mais sa plus belle expression est à vivre dans le cadre des choses que Dieu a définies. Le monde a le tort de surestimer la vie sexuelle, de promettre derrière ça des choses qui ne sont pas censées venir par la vie sexuelle. Il y a beaucoup de mirages, beaucoup de mensonges, beaucoup de fausses idées, qui sont d'ailleurs employées pour la vente, pour le commerce beaucoup, pour le commerce du cinéma, pour le commerce de tout produit, au moindre yaourt à vendre, au moindre peigne, il y a une idée sous-jacente qui fait lien avec ça. Parce que le bonheur, quelque part, il est forcément là. S'il y a du bonheur, il y a ça dedans, et s'il y a ça, il y a du bonheur. C'est un tort. Le monde surévalue complètement la sexualité. Tandis que dans l'Église, longtemps, peut-être encore un peu, bien la place de la sexualité est sous-évaluée, tenue pour quelque chose de charnel. C'est autorisé, mais c'est comme à la frontière du péché. C'est à la frontière. Il y a un intervenant un jour qui expliquait que l'acte d'amour n'est pas mal en lui-même, mais si on peut prier quand on y est, c'est mieux. C'est pas mal, mais il faut presque couvrir ça. Faudrait, excuse-nous, Seigneur, hein. Excuse-nous. Alors, c'est pas au monde de nous dire ce qu'il en est, parce que le Créateur a donné un manuel et il marche pour tout le reste et il marche bien pour ça aussi. Donc, on va essayer succinctement, parce que le temps ne nous permet pas de nous étaler trop longtemps, mais on va essayer de percer un peu quelques mystères sur le sujet. Je dirais aussi qu'on doit mettre une alerte sur la jeunesse, vous qui êtes parents de jeunes enfants ou d'adolescents. Le mode de vie des adolescents est souvent regardé ou dit « avancé », ils sont précoces. Non, ils sont pas précoces, c'est pire que ça, ils sont prématurés. Les bébés précoces, on est fiers, les bébés prématurés, on s'inquiète pour eux. Parce qu'ils sont pas en état de vivre, ils sont pas en état de se prendre en charge et tout ça, et c'est un danger de mort qui est derrière parfois. Et ils sont prématurés sur beaucoup de choses, et le schéma est très très destructeur. Par leur promiscuité, les jeunes apprennent comment fonder et détruire une relation en très peu de temps. Comment fonder une relation de manière à ce qu'elle soit réductible, destructible en très peu de temps. Et là, le mariage ne solutionnera pas le problème. Il y a des choses dans le cœur à démonter, à défaire, à recomposer. Alors, on sort avec une fille, on dit ça, ouais, enfin bon, ça, c'est le langage le plus sympa encore. Hein. On sort avec une fille, ouais, mais on sort de quoi ? On sort des voies de Dieu, on sort du droit chemin de la sagesse, on sort de quelque chose d'équilibré, de fiable. On sort de l'innocence, on sort de plein de choses. Puis après, on casse. Oui, mais on casse quoi? On casse une alliance, on casse un don, on casse un cœur, on casse un espoir que cela se passe un jour autrement, et voilà. Donc on est sorti et on a cassé, bien vu. Bien vu. C'est une réalité, malgré tout. Il faut être clair, ce n'est pas... On va essayer de voir un petit peu les mythes un petit peu au sujet de l'acte sexuel, de l'activité sexuelle. Ce n'est pas l'acte sexuel qui génère l'unité. J'ai un ami pasteur, on parlait il y a quelques temps de ça ensemble, de préparation au mariage notamment. Puis il me dit, tu sais, moi ça fait pas très très longtemps que je suis au Seigneur et on s'est mariés, ma femme et moi, avant de rencontrer le Seigneur. Ben, on s'est rencontrés un jour. Un matin, on a parlé quelques instants ensemble, quelques heures ensemble. On est sortis le soir, j'étais dans son lit. Il me dit, tu n'imagines pas le préjudice que cela a causé à notre couple et les mois et les années qu'il a fallu pour se remettre de cette construction complètement abracadabrante dont on était les auteurs. L'acte sexuel peut être vécu dans la perspective divine du don de soi. C'est comme ça que ça doit être vécu. Parce que Dieu est à l'origine de la chose, mais sorti de son contexte, il ne porte pas le même fruit. Il n'a pas la même conséquence du tout. Ça peut être même une relation de parasitisme. Parasite, c'est l'être qui vit aux dépens d'un autre être, d'un autre organisme, d'une autre personne. L'un se greffe sur l'autre, puis va en tirer son plaisir ou sa subsistance. On pourrait dire que non seulement l'acte sexuel ne génère pas l'unité, ce n'est que quand il est à sa place qu'il porte son fruit. Mais en lui-même, il n'est pas capable de générer l'unité. En lui tout seul, si on commence comme ça, bonjour, comment tu t'appelles, t'habites où? Le sexe sans engagement est même une cause de destruction et de désunion. Il y a dans une église qu'on connaît, des amis qu'on connaît, qui nous ont donné leur témoignage, qui nous ont expliqué comment, lorsqu'ils étaient fiancés, de bisous en bisous mouillés, de caresses en caresses inappropriées, ils avaient fini par passer le cap, passer à l'acte au niveau de la sexualité, alors qu'ils étaient juste en fréquentation, encore assez loin du mariage, et ils avouent, ils disent a posteriori comme ça, qu'ils reconnaissent que leur relation sexuelle avant le mariage les détruisait eux-mêmes et les conduisait vers la rupture. Et il disait, si nous n'avions pas eu le réflexe d'aller avouer, confesser notre péché au pasteur, et demander pardon à l'église parce qu'il y avait une grossesse qui s'en suivait, bien, nous ne nous serions pas mariés parce que cette chose-là nous aurait rongé et détruit, et aurait détruit notre couple. Donc ça ne génère pas l'unité, au contraire, lorsque c'est un fruit consommé au mauvais moment, ça peut être une cause de désunion, de destruction. Et beaucoup d'hommes et de femmes dits libres disent aujourd'hui, je ne sais plus aimer. Plus comment on fait. Vous vous souvenez la première image qu'on avait prise avec les célibataires, notamment vendredi soir, de l'autocollant. L'autocollant qu'on prend sur une feuille neuve, il sort de la famille, il y a plein d'autres. On prend un autre autocollant d'une autre feuille neuve, une autre famille, on les colle ensemble. Si l'assemblage reste, c'est parti pour durer. Mais si on veut coller, décoller, recoller, redécoller, il y a un moment où non seulement ça colle plus, mais l'autocollant, lorsqu'il va vouloir rester à sa place, va avoir emmené avec lui toutes sortes de poussières, de cheveux et de crasse qui viennent de tous les endroits où il a traîné. Et cette réalité est mesurable dans les couples lorsqu'il y a eu des aventures avant le vrai partenaire, avant le vrai conjoint. Il y a eu des aventures, c'est un fait qu'on emmène quelque chose des aventures précédentes dans le lit conjugal et dans l'histoire du couple. Donc ça fait, après, c'est une source de complications. Des moments de plaisir ponctuels pour des complications malheureusement souvent durables qu'il faut prendre en considération avec sérieux. Alors, ce n'est pas l'acte sexuel qui engendre l'unité. Non seulement il ne l'engendre pas forcément s'il n'est pas à sa place, mais en plus il peut la compromettre. Par-dessus ça, il faut être conscient qu'il y a des liens. Je viens de vous dire qu'on traîne des choses après, suivant ce qui a été vécu avant l'histoire du couple actuel. Et ça, on engendre, les relations comme ça engendrent des liens. Des liens irrationnels qui peuvent durer des années, voire pour la vie, et dont il faudra tenir compte. Même quand on aura rencontré la vraie personne, le vrai prince charmant, etc. C'est comme le tunnel sous la Manche. C'est un travail énorme pour le percer. Ça a été des mois, des années de boulot. Mais une fois qu'il a été percé, une fois qu'il a fonctionné, vous savez là, il pourrait obstruer les passages de chaque côté, mais il n'y aurait pas pour longtemps à rouvrir et à remettre ça en fonctionnement. Parce que ça a été fait une fois, ça a été terminé, le travail a été fait. Et de la même façon, il faut garder une sensibilité par rapport aux histoires passées. Et il faut que nous soyons capables de veiller sur nous-mêmes et que notre conjoint ait la possibilité de veiller sur nous-mêmes à ce sujet-là. Il n'est pas possible d'entretenir un contact régulier avec des ex si on veut sécuriser son cœur et son foyer. Il y a eu un tunnel qui a été ouvert, on l'a bloqué, on a dit non, plus jamais ce tunnel, j'irai plus jamais dans ce sens-là. Mais ça s'ouvre tellement vite. Il a déjà été creusé le tunnel, ça pourrait se faire tellement vite. Tout conjoint, je le pense sincèrement, dans l'époque où le phénomène Facebook frappe violemment les couples aussi. D'ailleurs, je vous lis un passage par rapport à ça, phénomène Facebook, un article que j'ai relevé. Mark Keenan, directeur de Divorce Online. D'ailleurs, je m'arrête encore. Divorce Online, j'étais affolé. C'est un cabinet d'avocats spécialisé dans le travail en faveur du divorce. Et puis, ils mettent dans la rue des camions Divorce Online avec une image magnifique du divorce. Et puis, vous avez des filles avec une poitrine comme ça, et puis des filles de je sais pas d'où elles sortent. Et elles ont sur leur t-shirt des choses qui sont écrites. Et puis, la vie est courte, divorcée. Et puis, il y a pareil, le gars, la chemise ouverte, les pectoraux, les tablettes de chocolat, puis il porte le même truc dans le dos, la vie est courte, divorcée. Si vous pouviez attraper un gars comme moi, vous pouviez attraper une fille comme moi, ça vaudrait pas la peine avant de mourir, là. Et tout ça pour tenter au divorce. On est dans un monde comme ça qui, non seulement reconnaît, mais défend et milite pour le divorce. Alors lui, le directeur de ce service-là, de Divorce Online, a mesuré le phénomène dans un cabinet d'avocats du Royaume-Uni, et il dit avoir été littéralement vraiment surpris de constater que 20% des demandes de divorce étaient liées à Facebook. Les notions dans Facebook, relations compliquées, vous connaissez ça, ceux qui sont sur Facebook? Je suis pas un familier. Relations compliquées, comment êtes-vous en amour, dans votre relation sentimentale? Relations compliquées, en réflexion ou déçu en amour. Ces notions sont des portes entrouvertes aux prétendants les plus entreprenants. Et la promiscuité qui suit les retrouvailles de copains de lycée qui ont parfois été bien plus que cela, crée une seconde intimité néfaste, une compétition et une comparaison avec le conjoint actuel qui peuvent déclencher une désolidarisation du couple. 20% des demandes de divorce au Royaume-Uni vient d'une promiscuité retrouvée, d'un tunnel qui a un jour été ouvert, qu'on avait bouché, mais que Facebook, un tout petit phénomène comme ça, est venu rouvrir. Tout conjoint devrait être au courant de tous les ex qu'a eu son autre conjoint avant lui. C'est normal. Vous savez ce que dit Jésus? Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et de quel droit un époux a-t-il l'initiative de cacher des choses à sa femme ou inversement? Je ne vous appelle plus serviteur, et dans le couple, on n'est pas serviteur l'un de l'autre dans ce sens-là, esclave l'un de l'autre. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai tout fait connaître. Et si on veut avoir une vraie amitié, qui est un facteur aussi favorable pour l'épanouissement aussi de la vie sexuelle du couple, si on veut avoir une vraie amitié, il faut avoir une vraie discussion, il faut avoir une vérité dans l'échange, puis dire, tu sais, moi, ça fait un peu mal à entendre, mais il y a eu, voilà, un tel, éventuellement, ou personne, voilà, mais il faut que l'époux, l'épouse sache. Et qu'elle soit partenaire dans l'état de veille par rapport à ces situations sensibles où le tunnel pourrait se réouvrir si facilement et si vite en cas de difficulté. Dieu, alors à côté de ça, que dire encore dans les mensonges, les choses négatives un petit peu, ça ne génère pas l'unité, ça peut générer la désunion, ça engendre des liens avec lesquels il faudra compter dans le reste de la vie. Ben, je dirais que malgré ça, Dieu n'est pas contre l'intimité conjugale, du tout. Dieu est le créateur de tout le corps. Proverbe 5, 18, on est dans, une sorte de métaphore, que ta fontaine soit bénie en tout temps et jouis de la femme de ta jeunesse, biche amoureuse et gracieuse gazelle. Et, bon, dans beaucoup de versions, notamment Louis II, c'est écrit que ses charmes t'énivrent en tout temps. Mais, si vous allez coller au texte, vous avez ça littéralement, que ses seins te rassasient et te comblent en tout temps. Enivre-toi toujours de son amour. Et on est là dans un langage, et c'est bon de gratter, vous voulez gratter un peu le livre des Cantiques, prenez des versions plus littérales, et vous n'allez pas être déçus. Et c'est bon de constater que la Bible reconnaît l'existence de tout le corps, qui est œuvre de Dieu et qui a été créé pour servir à de bonnes et nobles choses, mais qui a aussi été détourné par des plans et des convoitises pécheresses. Mais c'est intéressant de concevoir ça. C'est un appel clair pour les hommes à rester même sous les charmes physiques de leur épouse. Dieu est le créateur de tout le corps, mais, et c'est là que on trouve un équilibre et qu'on évite de tomber dans les excès qu'on trouve dans le monde, Dieu est le créateur de tout le corps, il est aussi le créateur de la maîtrise de soi. À côté de ça, 1 Thessaloniciens 4, 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, donc des débordements sexuels, etc. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Le corps, il est là, c'est Dieu qui l'a fait avec toutes sortes de moyens d'expression, d'expérience, etc. Mais il faut que ce corps, nous le possédions dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer, dit la parole, à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a le carburant du monde, c'est la convoitise. Et ça va toujours, toujours plus loin, et ça fait toujours, toujours plus mal. Tandis que les repères bibliques sont différents, et ils sont vecteurs de vie. Que le mariage, Hébreux 13:4, soit honoré, estimé précieux par tous, et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera littéralement les prostituées et les adultères. Les débauchés, dans beaucoup de versions, littéralement prostituées et les adultères. On continue. J'aimerais voir avec vous la valeur globale, en dehors des faits, de la conduite, des comportements précis. J'aimerais voir la valeur globale de l'intimité physique. Et nous l'avons déjà dit, mais je veux le redire pour ceux qui n'étaient pas là, l'intimité sexuelle, elle est censée, dans le plan de Dieu, revêtir la valeur de sceau, d'un sceau sur une... Il y a une lettre qui a été écrite, elle a été conclue, elle est complète, elle a été signée, terminée, elle est pliée, empaqueté et scellé. Et c'est comme ça que Dieu voulait que les choses soient faites, avec la volonté que bien, les choses étant bien faites soient scellées par l'intimité sexuelle. Si, avant de s'engager dans une promiscuité physique, les amoureux se demandaient « Est-ce que tu es prêt à t'engager, à sceller notre relation dans l'état actuel des choses ?» Ça calmerait le jeu. Si on réalisait, si les jeunes pouvaient réaliser ce que c'est, ils ne se comporteraient pas de la même manière. C'est intéressant de considérer que les relations sexuelles vécues prématurément stoppent le développement de la relation au sein du couple, ou la ralentissent, ou la rendent beaucoup plus laborieuse et pénible. Comme si y a une relation qui grandit, on va dire que la relation est semblable à un enfant, elle naît, elle grandit, et puis tout d'un coup, avant d'être arrivé à la maturité, à ses 20 ans par exemple, à 8 ans, hop, dans la relation, il y a l'acte sexuel qui intervient et qui va geler l'enfant à son âge de 8 ans par exemple, ou 7 ans. Et il va avoir, soit il va rester enfant sous certains rapports pendant toute sa vie, soit il va avoir une croissance pénible parce qu'il a comme été scellé, figé dans cet état-là. Et le reste va venir beaucoup moins naturellement. C'est pas moi qui dis ça, ce sont des gens compétents vraiment sur la matière. C'est un sceau, comme la signature d'un chèque. Vous signez le chèque, vous commencez. Dieu a voulu que le mariage soit comme un chèque de 1 million ou 9 millions d'euros pour aller encore plus loin. Et puis, on commence à l'écrire, première phase, 9, deuxième phase, 0, troisième phase, 0. Et si vous allez à l'acte sexuel, c'est exactement comme si vous barriez tout le reste de ce qui est disponible pour que rien ne soit plus écrit et que vous signez, hop, et ça y est, c'est scellé. Mais au lieu d'avoir un mariage à 9 millions d'euros, vous avez un mariage à 90 ou 900 euros parce que vous avez fait les choses à l'envers. Il va falloir revenir sur tout ça pour redonner au mariage la valeur qu'il était censé avoir. On a un exemple chez Isaac et Rebecca de cette précipitation qui porte préjudice à la relation. Genèse 24, versets 61 à 67, si vous avez une Bible et que vous dégainez vite, allez-y. Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. L'homme, c'est le serviteur d'Abraham. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de l'Akairoï et il habitait dans le midi du pays. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, c'est un bon point, il méditait, il leva les yeux et regarda et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima, pas besoin de dessin. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Les femmes trouvent pas cette histoire très romantique. Pas vrai? Des inconnus, elle se fait tirer littéralement dans la tente de quelqu'un qu'elle connaît pas. Et puis il y a un inconnu qui est là et voilà, qu'elle va se faire limite violenter. C'est très très particulier. Et ça va porter préjudice à leur couple, puisque on voit que Isaac a connu Rebecca dans un contexte de crise affective. On en parlait hier, ce matin, il était dans une situation de deuil. Ma maman, sur laquelle je m'appuyais, elle est plus là, j'ai besoin d'une autre maman. Et puis, il emmène Rebecca dans la tente de sa mère. Et c'est littéralement comme pour remplacer sa mère. Là, le modèle est pas bon. Isaac, t'aurais mieux fait de dire, moi, je suis en crise un peu en ce moment. Je vais me restabiliser. Puis après ça, toi et moi, on va bien construire notre relation. Mais non, il a directement emmené sa femme pour être la remplaçante presque de sa mère. Directement, intimité sexuelle, puis une fragilité qui s'illustre par la suite lorsque l'alliance est tenue comme un problème à cacher devant les Philistins. Mais tu l'assumes pas, ton alliance? Ouais. Il y a une fragilité, là. Il y en a une autre lorsque les enfants sont plus grands et que la relativité, la médiocrité de leur unité est mise à l'épreuve alors qu'il y a Joseph et puis Ésaü qui sont là. Et puis il y en a une qui préfère l'un et l'autre qui préfère l'autre et ils vont se jouer des tours. Vas-y, mon fils, va chasser dès que tu reviens, je te bénis en cachette de ta mère, tout ça, viens. Et après, la mère, elle entend ça, elle dit, eh, viens, Joseph, on va te déguiser, puis pendant que ton père voit rien, comme il est à moitié plus ou moins aveugle, on va te faire passer pour Isaac, puis tu vas avoir la bénédiction et tout. C'est quoi? On est dans quel couple, là? Désunis, visiblement, publiquement, devant les enfants, se jouant des tours l'un à l'autre, il y a un problème dans l'unité de ce couple-là, et certainement qu'il y a un lien avec le début, le démarrage, la construction même de cette unité. Ça a été scellé bien trop tôt et ça cafouille, ça cafouille, ça cafouille. Faut pas y voir une fatalité, mais il faut quand même discerner là une nécessité de reprendre les choses là où elles ont été laissées avant, éventuellement une relation sexuelle prématurée avec votre conjoint actuel, si ça avait été votre cas à tout hasard. Donc, ça a une valeur de sceau dans les valeurs générales. Maintenant, il y a des recommandations bibliques pour la vie conjugale. Et là, on va rentrer un petit peu dans les choses un peu plus pratiques. Le couple doit consacrer, c'est biblique, le couple doit consacrer à l'expression physique de l'amour, le temps, l'attention et les conditions qu'elle mérite. Il n'y a pas de mépris dans la parole par rapport à ça. Regardez Deutéronome 24, 5. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira pas à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant un an et il réjouira la femme qu'il a prise. Pareil, pas besoin de dessin. Il donnera jouissance à la femme qu'il a prise. Un an consacré aux besoins de l'autre, à connaître l'autre et à s'exercer aussi sous le rapport de l'intimité conjugale. Une année, on est loin d'un Dieu qui dit ça c'est pas grave, ça compte pas et qui méprise la chose. Ça fait partie, lorsque c'est bien vécu, des facteurs d'unité. Et sous ce rapport, on peut considérer que la vie intime d'un couple est autant un thermostat qu'un thermomètre dans la vie du couple. C'est-à-dire que thermostat, parce que si ça va bien là, ça va favoriser une bonne entente sur le reste. Et si ça va bien dans le reste, thermomètre, ça va aussi faciliter une bonne entente là. Il y a un lien thermostat, thermomètre, et c'est quand même quelque chose d'important. Il y a une influence, il y a un fruit réel, mesurable, dans une intimité équilibrée. Il n'est pas question, lorsque la parole parle, de prendre un an pour s'exercer, pour découvrir et apprendre l'expression physique de l'amour. Il n'est pas question de répondre à une pulsion. C'est un jeune, comprenez, c'est des jeunes, ça fait longtemps qu'ils se retiennent ça. C'est pas l'idée du tout. C'est l'idée qu'il y a une éducation à faire, une découverte à faire. Et ils doivent répondre à ce besoin de découverte. Il y a une croissance à faire. Parce que si c'était méprisé, négligé, et que le problème durait 1, 2, 3, 5 ans, ce serait cause de difficultés dans le couple aussi. Et sous ce rapport-là, bien, c'est une difficulté pour tout le monde, mais pour les hommes particulièrement, d'assumer une vie intime difficile pendant plusieurs années sans jamais avoir la tentation de regarder ailleurs. C'est évidemment possible avec Dieu, c'est notre appel avec Dieu, mais ce serait une folie pour une femme de mettre volontairement son mari en difficulté de ce côté-là. Question d'apprendre ensemble. 1 Corinthiens 7.1, voulez-vous prendre ça avec moi s'il vous plaît? 1 Corinthiens 7.1, parce qu'on va faire un découpage sur différents versets. Ça commence comme ça, très mystérieusement. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit. Qu'est-ce qu'ils ont pu écrire? Paul, est-ce qu'on a le droit d'aller jusque-là? Paul, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on devrait juste avoir des relations pour avoir des enfants? Ou est-ce que... On ne sait pas les questions qui ont été mentionnées, mais ça doit certainement ressembler à ce qui existe dans les cœurs aujourd'hui. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Et inversement. Ça signifie pour moi qu'il y a un bonheur possible dans le célibat. Ça, c'est à tenir, c'est à prendre en compte pour tous ceux qui sont célibataires, n'estimez pas que votre vie ne démarrera que quand vous aurez rencontré l'âme sœur. Il y a un bonheur possible dans le célibat, même y compris sous le jour de la virginité. Il y a un bonheur possible même dans cet état-là. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Et lui, Paul, certains pensent qu'il a toujours été, vieux gars, mais beaucoup d'autres pensent que Paul, en fait, est veuf. Veuf, pourquoi ? Parce qu'il aurait été complètement inapproprié dans un contexte juif où il est indispensable que quelqu'un soit marié, qu'un homme n'est vraiment un homme que lorsqu'il est marié. Il est impensable que dans le contexte juif, un homme non marié se permette d'enseigner d'autres juifs et d'autres non-juifs sur le thème du mariage. Donc, beaucoup estiment que, étant donné ces divers indices et d'autres encore, bien Paul n'était pas inexpérimenté, mais il était comme veuf, il avait certainement comme perdu sa femme d'une manière ou d'une autre, mais il savait de quoi il parlait, il avait connu la vie avec une épouse et la vie sans une épouse, puis il dit, il est aussi bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Il y a un bonheur possible dans le célibat. Si vous êtes marié, faites votre deuil pour ce bonheur-là, et puis aventurez-vous vers l'autre bonheur qui vous est destiné. Toutefois, verset 2, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et là, il y a une notion de besoin. Il y a un besoin qui a l'air assez fondamental, assez fort à certains moments, pour que ça puisse mettre en péril la conduite et la sainteté de l'enfant de Dieu. Donc, par mesure de sagesse, de précaution, Paul dit, toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Il y a un besoin. Il ne faut pas le mépriser. Et si le célibat se prolonge, il faut apprendre à gérer ce besoin-là. Verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Et voyez que ce verset-là est quand même directement placé au sein d'un contexte où il est question de relations intimes. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ma femme a quelque chose qui m'appartient. Et j'ai quelque chose qui lui appartient et je dois le lui rendre et elle doit me le rendre. C'est la nécessité d'un équilibre et d'une relation saine dans laquelle chacun s'épanouit. Et je n'ai pas le droit de prendre ce qui en moi est à elle et elle n'a pas le droit de prendre ce qui en elle est à moi, sauf raison très particulière. C'est nécessaire pour l'équilibre. Et il y a donc là derrière une notion de renoncement à soi pour accéder à l'amour véritable et à l'expression authentique, de la plus belle expression de l'amour. Ne vous privez pas l'un de l'autre, verset 5, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. On est dans un monde où on est sollicité. Vous êtes en ville ici, moi je suis à la campagne, c'est encore pas pareil. Vous êtes en ville ici, puis il y a des pancartes ici, une autre là, il y a une promotion pour un film, il y a tout le placard d'affiches du cinéma, il y a telle salle de spectacle, de théâtre, et puis il y en a partout. Il y en a partout, et il faut apprendre à vivre avec ça, avec ces tentations, et il faut qu'il y ait une vie à l'intérieur du couple équilibrée pour justement ne pas donner suite à des pulsions ou n'importe quoi, vu les tentations qui peuvent être aussi autour de vous. Puis il faut du reste, par rapport à ça, apprendre à se laver les pieds et les mains, comme Jésus l'a fait, laver les pieds à ses disciples. Le reste est pur, mais il y a des contacts qui font qu'on a besoin de laver notre cœur et nos pensées dans la présence du Seigneur régulièrement. Alors là, il y a une règle de sagesse. Privation, ok, mais provisoire, et décrétée d'un commun accord, parce qu'il y a une notion de propriété réciproque. Une épouse qui ne se sent pas désirée, et un mari qui ne se sent pas accepté ne peuvent pas progresser vers l'unité. Il faut que ce soit d'un commun accord. C'est pas un rejet. Il faut pas que ce soit un rejet. Il faut pas qu'il y ait différentes choses dont on parlera tout à l'heure. Il faut pas qu'il y ait de manipulation, de vengeance un petit peu. Utiliser le lit conjugal comme un instrument de vengeance, de pouvoir, de pression sur l'autre, parce que tout ça, ça va apporter la zizanie dans le couple et rien de positif. Alors, Si tout cela est vrai dans la dimension physique, ça devrait l'être aussi dans sa dimension relationnelle. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire, femme, ne te refuse pas à ton mari lorsqu'il te désire, même physiquement. Mais aussi, mari, ne te refuse pas à ta femme lorsqu'elle te désire physiquement aussi, mais c'est pas exactement pareil, mais lorsqu'elle veut parler de cœur à cœur avec toi. Et je pense que si chacun donne à sa femme, ou chaque femme donne à son mari ce qu'elle ou il lui doit, les choses se complètent et viennent naturellement prendre leur place, et ça s'équilibre, et c'est bon. le physique n'est pas séparé de l'ensemble du reste. L'homme doit être est appelé à être le modèle de la femme, et s'il y a quelqu'un qui doit se donner pour l'autre, eh bien c'est l'homme qui est appelé à faire le premier pas de se donner pour l'autre. Je vais l'écouter, je vais reconnaître sa sensibilité, je vais écouter ses requêtes, ses besoins, ses sentiments, etc. Et puis, très naturellement, ça va donner un modèle, parce que la femme, elle a, plus qu'un pouvoir d'initiative, elle a un pouvoir de réponse. Un pouvoir de réponse qui est fort, et ce qui ne vient pas naturellement dans un contexte particulier, vient très naturellement dans un autre contexte où il y a un sentiment véritable, sensible d'amour. Ça vient complètement différemment. Du reste, je suis en train de penser à ça. Je vous remercie, vous qui êtes des couples expérimentés, d'être là pour et d'être passé au-dessus de ma jeunesse et de notre jeunesse. On n'a pas encore 10 ans de mariage avec ma femme, mais je crois que merci. Ce sont des bonnes choses qu'on partage, mais merci pour votre simplicité, parce que je comprendrais très très bien que vous trouviez qu'il faille un peu plus d'expérience pour aborder le sujet. Je ferme la parenthèse. Je vous propose là de voir quelques règles pour régir les pratiques du couple. On avance, on était dans la grande généralité, dans les fausses idées. On avance un peu dans la pratique, la gestion du corps, et là dans les pratiques. Par rapport à ce que la Bible nous donne, je dirais premièrement par rapport aux règles qui régissent les pratiques du couple, qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture de la parole, il y a une ouverture de Dieu par rapport aux pratiques du couple. Plusieurs exégètes voient dans le livre du Cantique des Cantiques un ouvrage extrêmement sensuel. Et ceux qui vont le plus loin du plus loin, c'est limite choquant. Mais bon, eux pensent coller au texte. C'est pour vous dire que entre ce qu'on en perçoit nous et ce qui peut en être perçu, je veux dire, semblerait que ça puisse aller un peu plus dans la sensualité que ce qu'on a l'habitude de comprendre. Il faut comprendre là aussi des expressions idiomatiques, des figures de langage, etc., qui sont propres à un contexte d'époque, du Moyen-Orient. Et là, dans ce livre, le désir et le plaisir sont vraiment mentionnés sans équivoque. Alors, bien sûr, il y a un cadre favorable, et on en parlera un petit peu. Il y a un cadre favorable dans le livre du Cantique des Cantiques. Il y a une exclusivité. Oui, mon bien-aimé. C'est pas, est-ce que vous avez vu un bien-aimé quelque part? Mon bien-aimé, exclusivité. Respect de la liberté, puisque souvent on entend la Sulamite qui invite son bien-aimé à entrer dans son jardin, etc. On est dans le respect de la liberté de l'individu, de la personne. On est en couple, on est marié, il y a une alliance. Tu as des choses qui m'appartiennent, mais je vais pas te les voler. Je vais pas te les prendre. C'est normal que dans le couple, c'est comme ça que ça s'entende. Il y a donc une exclusivité, il y a un respect de la liberté, il y a des préliminaires. On voit une femme qui sait se mettre avantageusement en évidence devant son mari, puis on voit un homme qui sait parler le langage de sa femme, qui sait lui faire de grandes déclarations, des poèmes. C'est un langage particulier. Moi, je me suis jamais essayé à parler des tours, des dents qui sont comme des brebis. Elles ont toutes des jumeaux. Il y a aucune qui est stérile. Tout ça, ça toucherait très peu certainement ma femme. Mais enfin, il semblerait que, en l'occurrence, la Sulamite là, elle aimait ce genre de poésie et ça touchait son cœur. Donc, il y a des préliminaires, il y a une prise de soin en dehors même de l'acte et de l'intimité. Il y a des soins qui sont apportés de manière générale. Il y a une préparation pour une ambiance favorable par des jeux de séduction. Où est mon bien-aimé? Il y a une sorte de cache-cache. Et puis, on peut faire des cache-cache dans une journée, envoyer un petit mail sympa, est-ce que tu penses à moi, je pense à toi, et puis toutes sortes de choses qui appartiennent que au couple. Mais pour créer l'attente, pour créer l'intimité, l'attente, il est où? Oui, mon bien-aimé, avez-vous vu mon bien-aimé? Il est comme ci, il est comme ça. Puis on se pose une petite seconde au bureau, mon mari, ma femme. Et puis ça crée, il y a une ambiance là, et on trouve ça dans le livre du Cantique des Cantiques. Absence, recherche, indice, il est là, qu'est-ce qu'il va réserver? Ah, c'est une surprise ou inversement. Donc il y a une ouverture, le livre du Cantique des Cantiques et les autres nous montrent qu'il y a une ouverture dans le cœur de Dieu pour ça. Il y a aussi une liberté. La Bible ne condamne clairement que les choses. J'espère ne pas me tromper, j'espère ne pas en oublier. Mais pour moi, en faisant un petit tour d'horizon, la Bible ne condamne clairement que les choses suivantes. Homosexualité, pas besoin de lire des textes, c'est acquis pour tout le monde ici. Adultère, y compris dans sa dimension fantasme. Adultère, physique ou en pensée. Usage contre nature de la femme, c'est romain. Usage contre nature de la femme, domination irrespectueuse, et là on n'a pas de texte particulièrement attribué à cette spécificité de la relation intime entre époux, mais ce n'est qu'une application d'une généralité. usage de pornographie ou forme d'impudicité où l'image d'une autre personne est mise en cause. Ça, c'est quelque chose aussi qui est clairement condamné par la parole comme étant péché et perversion. Et puis, impudicité de personnes qui cherchent à être vues, exhibitionnisme, ça aussi, ça rentre complètement sous le coup de la condamnation de la parole. Mais en dehors de ça, et puis je mets une réserve, mais en dehors de ça, me semble-t-il, il n'y a pas de condamnation claire sur d'autres choses. Souvent, les autres interdits que nous avons viennent d'un petit héritage d'une culture catholique qui s'est basée sur des pensées et des calculs et des projets humains plus que sur la sagesse de Dieu. Alors en dehors de ça, il y a une grande liberté. Paul dit, je suis encore dans le même cas où on prend une généralité, on essaie de l'appliquer à la vie intime du couple. Dans 1 Corinthiens 6, 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ou bénéfique. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, ça veut dire que tout est possible. Tout est possible. Je veux dire, physiquement, beaucoup de choses sont possibles. On va dire que personne saura, personne verra. Donc il y a effectivement une absence de limite matérielle. On n'est pas cloisonné. Il n'y a pas un ange qui est là dès que un couple entre dans sa chambre. Il y a pas un ange qui arrive ici en surveillant comme ça. Et puis dès que le couple entame autre chose, il prend son épée, il tape sur l'épaule du mari. La maman dit que ça non là-haut. Ça n'existe pas. Tout est permis. Je veux dire que pour celui qui veut, si la transgression est possible pour tout. Mais il y a une sagesse chez Paul qui dit tout est permis, mais j'ai appris à me posséder moi-même et à gérer avec sagesse mon comportement, y compris dans la relation affective, physique. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses qui peuvent. Alors on n'est pas dans le péché là. On est dans les choses qui sont inutiles, sans avantage. On peut essayer une chose, puis la délaisser très vite si ça n'apporte pas davantage. On n'est pas dans les choses graves. Après, il y a « je ne me laisserai pas asservir ». L'asservissement, dans le monde, peut exister aussi sous ce jour-là des relations intimes. Et c'est loin du plan de Dieu. C'est le cas de la domination où l'un devient l'objet de l'autre. Ou bien c'est aussi le cas d'usage de support. Il y a quelqu'un qui dit ben, « tout m'est permis », et puis il va mettre une cassette pour lancer l'excitation ou je sais pas trop quoi, une cassette porno par exemple. Quoique cassette, c'est peut-être fini maintenant. Mais usage de matériel, de support pornographique qui va, en plus d'être péché en soi, occasionner forcément une accoutumance et puis une dépendance. Et il va y avoir un asservissement ou matériel. Et on est dans une époque où on entend de plus en plus parler de sex toys. Et ça peut donner lieu à une dépendance aussi. ou à une perversion de la valeur de l'acte. Donc, Paul dit, on pourrait tout faire, mais je ne me laisserai pas asservir, et je pense que c'est très applicable, c'est très, tout à fait possible de l'appliquer à la vie intime d'un couple. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Quel avantage y a-t-il pour un couple à passer certaines barrières, ou à cueillir certains fruits qui ne sont pas encore mûrs? Parce que on le verra tout à l'heure, il y a aussi une progression dans la vie intime du couple. Mais quel avantage y a-t-il à passer certaines barrières ou à cueillir certains fruits prématurément, des fruits qui ne sont pas mûrs, si c'est pour aboutir, à la fin, à un sentiment d'humiliation, de déshonneur, d'impureté ou de rupture avec l'autre? Tout est permis. Ah, c'était permis. Ah, mais ça n'a pas édifié du tout. Ça a été comme regrettable. Ça laisse un goût amer. Ben, c'était... Voilà, faut en tirer une conclusion claire, une leçon utile, et puis que ça serve pour la suite. Donc voilà, tout est permis en dehors des choses spécifiées, mais attention, tout n'est pas utile, alors on abandonne ce qui n'est pas utile, je ne me laisserai pas asservir, je veillerai à ce qu'il n'y ait pas dans ma liberté une cause d'esclavage potentiel, et puis que ça édifie, que ce soit constructif, que le principal c'est qu'on sorte de ces moments-là avec une complicité renforcée, et puis un plaisir d'avoir passé ces moments exclusifs ensemble. Et puis, il y a, au-delà de cette liberté, il y a aussi une progression. Tous les couples se souviennent de leur nuit de noces, mais il y a peu qui rêvent d'y retourner. Il y a eu une progression. Et c'est bien souvent, à part pour ceux qui ont eu, malheureusement, d'un côté, comment dire, une activité, des activités, des relations avant le mariage, c'est bien souvent une réalité que ça commence à zéro le jour de la nuit de noces quasiment. Et tous les progrès sont possibles, mais ils sont nécessaires aussi. Donc, il y a une base au commencement du couple, il y a une base, et dans les choses de base du bon sens, on va dire qu'il va falloir composer avec les différences. La femme prend moins naturellement l'initiative, donc ça va être à l'homme d'assumer cette différence et puis de savoir donner l'initiative dans un ensemble d'équilibre. Par contre, on l'a dit tout à l'heure, la femme, elle a une grande capacité de réponse, surtout s'il y a un ensemble favorable. Pour les femmes, on en parlait tout à l'heure, c'est une base aussi de ne pas utiliser le lit conjugal comme un moyen de pression ou de manipulation sur le mari. Dans les bases aussi, me semble-t-il, nous ne devons pas rejeter l'initiative de l'autre sans raison valable. Non, non, ce soir, laisse tomber. Tu m'as rejeté, est-ce que je peux avoir une raison valable ? C'est valable dans les deux sens. Alors je m'exprime comme ça, mais sans vexation ou sans agressivité, mais ça mérite quand même une explication. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a un différent ? Est-ce que je t'ai blessé ? Ou est-ce qu'il y a une raison physique qui fait que ? Enfin, il y a plusieurs causes possibles, mais j'ai quand même le droit de savoir pourquoi je suis rejeté, que je ne sois pas rejeté parce que c'est moi, mais parce qu'il y a des causes qui font que. Le refus d'une femme est souvent plus humiliant qu'elle ne peut le penser. Il faut qu'il y ait un vrai motif, puis c'est réciproquement vrai, c'est très humiliant et pour une épouse qui fait une démarche d'être repoussée. Dans nos vies trépidantes aussi, il faut qu'on prenne le temps de sécuriser une part de temps, une soirée par semaine ou quelque chose, ou un moment qui convienne pour chaque couple, pour qu'il y ait, même si la première année sabbatique consacrée à ça n'est jamais arrivée, qu'on puisse l'avoir au moins étalée un peu partout, une soirée par-ci, un jour par-là, de manière à aussi favoriser cette intimité-là dans le couple, en faire une priorité et réserver du temps aussi pour ça. Idéalement, on est dans les choses très pratiques. S'il y a des enfants, particulièrement des grands-enfants, idéalement, essayer peut-être de changer de chambre, de passer à l'étage ou passer au sous-sol ou quoi, lorsque les enfants grandissent, pour garder une sphère dans laquelle c'est vraiment chez nous et puis il y a pas de problème. C'est important pour les parents, puis c'est important pour les enfants aussi, de pas être témoin de certaines choses ou de pas soupçonner certaines choses. Importance de l'hygiène masculine. On dirait que l'hygiène féminine n'a pas beaucoup besoin de venir dessus. En général, ça va de soi. Parfois, ça pêche un peu plus chez les hommes. Ça, on est vraiment dans les choses de base. Et puis aussi, là, on est chez la femme dans la psyché, nécessité d'une contraception, si c'est le cas, efficace. Parce qu'il n'y a rien de tel que de se demander si ça va donner un bébé pour refroidir une madame. Alors voilà, il y a une progression dans la vie intime du couple, au fil du temps, au fil de l'expérience acquise, au fil de l'affermissement de la relation dans son ensemble, au fil de l'approfondissement de la connaissance de soi et de l'autre, même sous le rapport physique. Puis ça va progresser tout ça. Et pour accompagner cette progression, sans la forcer, ni la restreindre, ni l'affecter, il est important que l'exercice, si je peux dire ça comme ça, soit accompagné d'une vraie communication, que les époux puissent parler ensemble de ce sujet-là. Il faut faire attention, parce que là encore, les sensibilités sont pas les mêmes. Et si une femme a un petit reproche à faire à son mari sur ce jour-là, faut qu'elle soit douce, parce que ça remet la fierté éventuellement, pour certains maris, ça remet la fierté en cause et ça va toucher directement au fond. Et il y a une sensibilité qui est là. Mais il faut quand même en parler. Il faut en parler, il faut qu'il y ait des échanges, il faut que la progression ne soit ni freinée, ni affectée, ni forcée même. Il faudrait qu'il y ait juste une communication qui permette que la progression soit harmonieuse, que ce soit la progression des deux. Ça peut arriver qu'il y en ait un qui soit plus entreprenant que l'autre, mais c'est l'équilibre des deux qui est à trouver. Et voilà comment, en quelques dizaines de minutes, on a pu faire le tour donc de cette matière très particulière et très importante aussi de la vie intime du couple.